Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale pour l'avant-dernier numéro de la saison. Les vacances approchent et avec elles le passage de la radio en grille d'été. Mais d'ici là, il reste encore quelques événements musicaux à vous annoncer et vous présenter. Tout d'abord, les 6 représentations d'Eugène Onéguin, le chef-d'œuvre de Tchaïkovski à l'Opéra National du Capitole du 20 juin au 2 juillet. Et puis tout proche également, le Festival de Toulouse, dont la 3e édition a lieu cette année du 29 juin au 13 juillet. Je rappelle que Radio Présence est partenaire de cette manifestation, dont le programme est toujours aussi éclectique et original. La musique sous toutes ses formes y étant parfois associée à d'autres disciplines artistiques. Pour vous présenter cette 3e édition, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui le fondateur et directeur artistique du Festival de Toulouse, le mandoliniste Julien Martineau. Et j'ai une autre chance, celle de retrouver dans cette émission notre monsieur opéra Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. C'est avec Robert que nous allons tout de suite nous plonger dans l'agenda musical des jours à venir.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'agenda des jours à venir, c'est donc essentiellement Eugène Onéguin, l'opéra de Tchaïkovski, qui clôture la saison du Capitole du 20 juin au 2 juillet, dans une mise en scène de Florencio et avec Stéphane Degout dans le rôle-titre. Un rappel historique tout d'abord, il a fallu attendre 1975 pour voir enfin cette œuvre à Toulouse, soit donc près d'un siècle après sa création à Moscou, Robert.
Oui, effectivement, et elle a été donnée donc, très exactement le 21 février 1975. Et donc, c'est au Capitole, c'est en français, dans le cadre d'une coproduction avec le Grand Théâtre de Bordeaux, que Eugène Onéguin a été représenté pour la première fois, sous la direction de Michel Plasson, dans une mise en scène de Sacha Pitoeff.
S'il vous plaît,
s'il vous plaît,
faut voir ce que c'était que la famille Pitoeff, et notamment Sacha. Hein, bon.
Voilà.
Et ça ne me rajeunit pas.
Dans les décors et costumes de quelqu'un qui est resté également célèbre pour cette activité, Georges Vakevitch. Alors, cette production est reprise ensuite, mais enfin en langue originale, toujours sous la direction de Michel Plasson, en 1980. Et en 1993, l'œuvre revient à l'affiche dans une nouvelle production signée Nicolas Joël, dans les décors et costumes d'Hubert Montloup, et toujours sous la direction de Michel Plasson. Et celui-ci cédera sa baguette à un chef tchèque qui s'appelle Peter Feranesh pour la reprise à l'affiche de l'ouvrage. Toujours dans la mise en scène Nicolas Joël, en 2003 et depuis, plus rien. Voilà. Donc cela fait 21 ans qu'on n'avait pas entendu Eugène Onéguin au Théâtre du Capitole, et c'est évidemment un grand bonheur. Alors, bon, vous me demandez quelques distributions, je ne vais pas toutes vous les donner, mais il y a eu quand même un immense Onéguin à Toulouse. C'était en 1980, il était la référence absolue dans le monde entier, métropolitain, Bolchoï, Moscou, Milan, Paris ou autre, c'était le baryton polonais Yuri Mazurok. Et on a eu la chance de l'avoir à Toulouse dans le rôle qui était son rôle signature en définitive. Et quelques années après, c'est un jeune baryton américain qui a fait une grosse carrière au Capitole, qui s'appelle Andrew Schroeder, qui est venu chanter pour la première fois le rôle d'Onéguin. Et le dernier en date, c'est Ludovic Désir. Voilà, simplement. Alors, pour en revenir à l'œuvre, en fait, je ne sais pas si elle est très connue par le public, parce que l'œuvre Tchaïkovski est surtout célèbre dans le monde entier pour ses ballets, pour certaines de ses symphonies. Ensuite, dès qu'on va chercher dans l'opéra, déjà, on va commencer à diminuer le panier des personnes pouvant citer des opéras de Tchaïkovski. Et tout au plus, on en trouvera qui pourront au moins en citer deux.
La Dame de Pique,
c'est, La Dame de Pique
et Onéguin.
Et Eugène Onéguin. Donc c'est un jeune homme de 37 ans qui écrit cet opéra au milieu d'un tourbillon sentimental personnel. Puisqu'on le sait, à cette époque-là, pour des raisons sociales, Tchaïkovski est homosexuel et il est obligé de se marier. Évidemment, ça ne marche pas. Il fait une tentative de suicide. Donc, il vit des moments un peu difficiles. Bon, voilà. Mais en même temps, cet opéra est très mal accueilli. Parce qu'effectivement, ce livret sur lequel il a travaillé, c'est lui qui l'a écrit, il a co-écrit, mais 90% c'est lui qui l'a écrit avec un de ses collaborateurs. Mais elle est issue tout droit d'un roman en vers,
oui,
de Pouchkine, roman éponyme évidemment. Alors, c'est certain que Tchaïkovski a utilisé des pages entières du roman dans son livret, mais il n'empêche qu'à d'autres moments, ben, c'est lui qui a trempé sa plume dans la criée et certains lui ont reproché un manque d'action scénique.
Oui,
dans cet opéra.
En fait, c'est beaucoup sur l'intériorité des personnages,
voilà,
plus
voilà,
que dans l'action.
Et donc, effectivement, à cette époque-là, nous sommes dans les années 1870, on avait plutôt l'habitude des défilés pharaoniques, des grandes bécanes de l'opéra
français. Des grosses
français,
machineries,
bon,
des grosses
voilà,
machineries.
Voilà, bon, bref. On l'a accusé vraiment de faire un opéra qui était un peu anti-opéra. Alors, lui, il en avait parfaitement conscience, d'ailleurs à tel point qu'il a intitulé son opéra une suite de scènes lyriques. Et en fait, c'est une suite de scènes lyriques qui nous fait rentrer dans l'intimité des personnages. Ce n'est pas des actions dans tous les sens, avec grandes chevauchées, etc. Pas du tout. Tous les personnages, que ce soit Tatiana, que ce soit Onegin, que ce soit Lenski, sont véritablement passés au scanner de leurs sentiments. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que c'est une œuvre d'une infinie poésie musicale, dramatique, et c'est une œuvre vraiment qu'il faut aller écouter.
Alors, on va parler maintenant de la production. On va pouvoir découvrir donc au Capitole du 20 juin au 2 juillet à l'occasion de 6 représentations avec un metteur en scène qui, je crois, fait ses débuts au Capitole.
Voilà, il s'agit de Florencio qui est avant tout un metteur en scène de théâtre. C'est quelqu'un qui a mis en scène le théâtre contemporain, le théâtre russe, mais pas que. Mais depuis l'âge de 9 ans, il avait décidé qu'il serait un jour metteur en scène d'opéra. Et donc, ben, il fallait bien que ce jour-là arrive. Alors, ce n'est pas pour Onegin. Il a déjà fait ses armes à l'Opéra du Rhin avec Lohengrin il n'y a pas très longtemps, à l'Opéra Royal de Compiègne avec la Tosca. Il faut bien préciser que ce qu'il va donner à voir est tout à fait lisible et tout à fait perceptible. Alors, en fait, il part du principe que tout le monde vit son présent, mais également est entouré de ses remords, de ses regrets, de ses deuils. Parce qu'on ne peut pas faire complètement l'économie de ça dans une vie. C'est impossible. C'est dans notre cortex, dans notre mémoire. Et donc, il a décidé de mettre sur scène un peu tous les fantômes qui hantent autant Tatiana, Kolinsky et Konegin en particulier. Quand il arrive au dernier acte, le fantôme qui hante, évidemment, Onegin, c'est le fantôme de son meilleur ami Lenski
qui l'a tué
à l'acte précédent. Voilà, je n'irai pas plus
on
loin.
On va pas aller plus loin.
Voilà, je n'irai pas plus loin, mais c'est quelque chose. Il y a de très beaux costumes, de très beaux décors qui font vraiment référence complètement à la forêt russe, au naturalisme russe. C'est magnifique. Alors, une petite précision, il y a eu hier un changement assez
à la direction
assez important,
oui, de l'orchestre.
Et
c'est,
à un moment,
c'est
quand
pas
même
neutre.
Pas facile
oui,
dans une production.
Ça peut être fragilisant.
Parce qu'au moment de la pré-générale, le chef d'orchestre hongrois, Gábor Kalis, a été obligé de quitter la production pour des raisons personnelles. Mais bon, on peut faire confiance à Christophe Christy. Il a plus d'un tour dans son calepin et donc il a mobilisé un chef allemand, Patrick Lang, qui est un chef de répertoire en particulier lyrique, hein, mais plutôt orienté vers Strauss, Wagner, les grands Verdi, etc. Mais qui a déjà dirigé, bien sûr, Eugène Onegin. Donc il n'est pas arrivé comme ça, les mains dans les poches. Et moi, je suis sûr que ça va très, très bien se passer. Alors, la distribution, bon, évidemment, nous le disions en aparté tout à l'heure, c'est une très belle distribution, mais comment ne pas mettre en premier le plus grand baryton français aujourd'hui, c'est Stéphane de Goute, que le Capitole a la chance d'avoir assez régulièrement dans ses distributions. Tout le monde se souvient
de son vote sec
qui était
une pure merveille.
Absolument renversant, mais on se souvient également, quelques années auparavant, qu'il avait chanté Thésée, dans Hippolyte et Aricie au Théâtre du Capitole. Voilà. Alors, après, nous trouvons donc la famille, la suite de la famille de Christophe Christy, la famille artistique, bien évidemment. Hein. Donc, Valentina Fedeneva chantera Tatiana. Alors, Valentina Fedeneva, il faut se souvenir qu'elle a fait une première apparition au Capitole lors de la création de Rusalka. Elle était l'une des nymphes.
Oui, c'est une spécialiste du rôle.
C'est une spécialiste du rôle.
De Tatiana.
Et Eva Saïchik, qui fait Olga, Elle, on l'a eu souvent
oui.
au Capitole, et bien sûr,
très bien.
Elle nous a fait Carmen. C'est Lisette dans Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas, et puis dernièrement, Rosine du Barbier de Séville. Ensuite, c'est notre dernier Tamino, l'un de nos derniers Tamino, Braun Magnus Todenes, qui chez nous avait fait Macduff également lors des dernières reprises de Macbeth, qui fera Lenski. Et ensuite, Juliette Mars, que nous avons entendu un peu plus tôt que prévu.
Et oui.
Puisqu'elle a été appelée au secours pour remplacer Janina Bechler pour chanter Madame Geneviève dans Pélias et Mélisande. Et là, aujourd'hui, évidemment, chante Madame Larina. Et puis ainsi, Philippe Jeffna, qui est un rôle important. Philippe Jeffna, voilà, ce n'est pas tout à fait un petit second rôle. C'est Sophie Pongiklis et Karl Kazarossian, que l'on entend très souvent au Capitole, aura la charge de ce délicieux moment en français, comme très souvent dans les opéras russes, hein, puisqu'il chante Monsieur Triquet, et enfin dans le double rôle du capitaine de Zaretsky, également un chanteur qu'on entend souvent à Toulouse, Yuri Kissin. Voilà. Donc c'est très enthousiasmant, c'est très excitant.
Oui.
Vraiment, cette nouvelle production, en plus de tout, elle est à voir, croyez-moi.
Très, très prometteur tout ça. Alors, il y a un air très célèbre dans Eugène Onegin, c'est Kuda Kuda, l'air de Lenski à l'acte 2. On va l'écouter avec le ténor norvégien Bror Magnus Todenes qui va interpréter le rôle au Capitole. Kuda Kuda, l'air de Lenski à l'acte 2 de Eugène Onegin, interprété par Bror Magnus Todenes, qui tient donc ce rôle dans la nouvelle production de l'opéra de Tchaïkovski au Capitole, du 20 juin 2 juillet. Je rappelle qu'il y a 6 représentations pour la découvrir. Nous allons malheureusement refermer cette page opéra par un carnet noir, puisque nous avons appris dimanche, avec beaucoup de tristesse, je dois dire, la mort de la jeune soprano belge Jodie De Vos, emportée à l'âge de 35 ans par un cancer du sein foudroyant. Une nouvelle qui a plongé le monde de l'opéra francophone dans le chagrin et la sidération, et nous aussi à Toulouse, puisque Jodie De Vos avait participé à 2 productions au Capitole il y a quelques années, Robert.
Oui, effectivement, nous avions le bonheur de l'entendre, elle avait 29 ans. En 2018, elle chantait L'amour dans l'Orphée Eurydice de Gluck, et en 2019, elle le faisait Sœur Constance dans la dernière reprise des Dialogues de Carmélie dans la mise en scène d'Olivier Py. Voilà. Pour moi, elle restera non seulement une magnifique voix soprano lyrique colorature, mais en même temps et avant tout un sourire.
Oui.
Voilà. Et c'était une cantatrice absolument charmante. Elle avait de la lumière dans les yeux. Elle était extraordinaire. Regardez Sœur Constance.
Oui.
Sa Sœur Constance était sidérante d'empathie, d'amour, de foi. Elle était extraordinaire. Alors, c'est vrai que on apprend tous les jours le décès de très grands artistes qui nous ont fait rêver dans les années 50, 60, 70. Voilà. Et là, la tristesse appartient plutôt au domaine de la nostalgie, parce que c'est la vie. À 35 ans, donc, nous sommes vraiment tristes parce que c'est injuste. On pense beaucoup, évidemment, à sa famille. On n'ose même pas imaginer ce que vivent ces gens-là. Mais nous avons également la chance de l'avoir entendue. Donc, elle est inscrite durablement dans nos mémoires. Elle est inscrite également dans la mémoire plus technique de DVD, de CD.
De discographie.
Et
oui.
Dans une discographie quand même qui déjà était abondante. Et ne parlons pas de tous ces projets, mais autant en enregistrement qu'en engagement dans les plus grands théâtres européens. Ben écoutez, la vie en a décidé autrement, c'est bien triste. Je sais bien qu'ils ne sont pas les seuls à être frappés par ce genre de séisme horrible, mais bon, celui-ci appartient au monde de l'opéra, c'est pour ça que nous en parlons.
Et oui, et pour rendre hommage à cette chanteuse talentueuse, pétillante et pleine de vie, je propose de réécouter Jody DeVos dans l'air de Juliette. Je veux vivre dans ce rêve, extrait de l'opéra Roméo et Juliette de Charles Gounod. Jody DeVos, partie vivre pour toujours dans son rêve, qu'elle repose en paix et que l'éternité lui soit douce. On ne peut malheureusement pas ajouter grand-chose. Et il faut bien que le spectacle continue, comme on dit. Nous allons retrouver maintenant Julien Martineau, le directeur artistique du Festival de Toulouse, pour évoquer avec lui la troisième édition de cette manifestation qu'il a fondée en 2022. Elle a lieu du 29 juin au 13 juillet. Je rappelle que la première s'était déroulée sur des scènes extérieures, alors que la canicule sévissait à Toulouse, raison pour laquelle vous aviez décidé de revenir dans les salles en 2023, une formule que vous avez maintenue cette année. À ce propos, quel bilan tirez-vous de l'édition précédente? Est-ce qu'elle vous a conforté dans vos choix artistiques?
Bonjour Eric. Oui, le changement un petit peu de lieu de l'édition passée où on a pu retrouver des salles au confort acoustique et des salles climatisées nous a permis en fait d'avoir un festival qui se déroule dans des conditions, j'allais dire, assez parfaites. On regrette beaucoup le jardin Raymond VI, qui était un lieu extraordinaire pour écouter de la musique en plein air, mais on n'a pas souhaité retenter notre chance en extérieur, donc on est resté dans des lieux intérieurs au confort avéré. Et par contre, on a de nouveaux lieux cette année, notamment le Théâtre de la Cité, qui est quand même un très bel écrin et qui nous offre une jauge qui est assez intéressante, que l'on n'avait pas. Alors malheureusement, la Halle aux Grains est fermée pour travaux encore cet été, sans doute l'été prochain. Donc on est vraiment dans différents lieux de la ville, ce qui nous permet, en même temps en ayant organisé une buvette, d'avoir voilà, ce moment de convivialité, soit en extérieur avec la buvette comme à Saint-Pierre des Cuisines, soit avec les portes qui s'ouvrent. Enfin, je dirais qu'on a trouvé une forme qui, à mon avis, est pérenne.
Alors, vous avez cité tous les lieux, mais je vais rajouter Saint-Pierre-des-Cuisines, bien sûr, où il y aura, comme l'an passé, beaucoup de concerts. Il y en aura un à l'Opéra National du Capitole, et il va y en avoir un au Casino Théâtre Barrière, c'est le premier, le samedi 29 juin à 21h, avec du gospel, ce qui n'est pas si commun que ça à Toulouse, finalement.
Et non, c'est vrai, il n'y a pas une programmation abondante de gospel. Alors, bien sûr, j'ai un peu regardé, il y a des concerts. Mais là, en plus, ce que l'on voulait faire, c'était réinviter la révélation de la première édition du festival, qui était Tatiana Ganti, qui avait été une Aretha Franklin extraordinaire, justement. Alors, on avait chaud, mais elle a mis le feu encore plus. Donc, ça avait été un concert qui est resté dans les mémoires de cette première édition. Et j'ai proposé à Tatiana, qui maintenant a joué un peu partout depuis cette première édition du festival, de monter un nouveau projet. Et donc, en fait, c'est une création du festival. On a commandé les arrangements. Enfin, voilà. Et c'est donc avec le Gospel Symphony Orchestra. C'est une nouvelle formation qui est composée uniquement de Toulousains. Et donc, c'est la première création
du
festival, sachant que près de la moitié des concerts et des spectacles sont des créations cette année.
Je voudrais préciser, parce qu'il y a peut-être parmi nos auditeurs des gens qui disent, mais Tatiana Gronti, ça nous dit quelque chose sur Radio Présence. Ben oui, puisqu'elle a produit une émission sur Radio Présence, il y a maintenant peut-être une dizaine d'années, assez longtemps, et qui était consacrée au gospel. Et puis elle a fait son chemin depuis, elle a fait du gospel, du chant, de la musique, son métier. Alors ce Gospel Symphony Orchestra et Tatiana Gronti vont nous présenter un programme de classique du gospel, mais aussi de choses plus récentes. Voici un exemple de ce que vous allez pouvoir y entendre, un morceau intitulé « I Love You ». I Love You, tout un programme, des titres que vous allez pouvoir entendre lors du concert d'ouverture du Festival de Toulouse 2024, donné le samedi 29 juin 21h au Casino Théâtre Barrière par la chanteuse Tatiana Gronti et le Gospel Symphony Orchestra. Et dès le lendemain, alors là c'est changement radical de registre pour le deuxième rendez-vous du festival, dimanche 30 juin à 18h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec le concert lecture de la comédienne Kim Higelin, accompagnée par la pianiste Vanessa Benelli-Mosel, un événement qui marque un double anniversaire, Julien.
Tout à fait. C'est les 70 ans de la parution du livre mythique de François Sagan, Bonjour Tristesse, mais c'est aussi les 20 ans de sa disparition.
Ce qu'on peut dire tout de même, c'est qu'elle est originaire de notre région, puisqu'elle est née à Cajar.
Voilà, c'est un premier partenariat pour nous avec le Marathon des mots, ça, en... très content parce que le Marathon des mots, forcément, c'est une manifestation emblématique de Toulouse. Et se réunir avec un spectacle musical autour de François Sagan, ça faisait vraiment sens, d'autant plus que Kim Higelin a été révélée par un film qui s'appelle Le Consentement. Vous savez, l'affaire Gabriel Matzneff. Et Kim Higelin était absolument extraordinaire dans ce film. Et forcément, on fait le lien avec Bonjour Tristesse. Et elle sera accompagnée au piano par Vanessa Benelli-Mosel, qui est une pianiste italienne remarquable et qui avait été invitée lors de la première édition du Festival de Toulouse pour jouer le concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski. Et donc, voilà, on va avoir un spectacle avec des classiques de la musique romantique, beaucoup.
Je ne vous demande pas le programme parce qu'il faut le garder un petit peu secret.
Exactement, mais en tout cas, je pense que les spectateurs qui seront là vont se régaler.
Alors, premier concert au Théâtre de la Cité, lundi 1er juillet à 21h. On parlait de l'éclectisme de la programmation, on est en plein dedans. Ça va être avec le Kyle Eastwood Quintet, Eastwood by Eastwood, puisque le fils... c'est l'aîné des enfants de Clint Eastwood, va jouer des extraits des bandes originales des films de son père. Qu'est-ce qu'on va entendre, Julien? Et là, c'est les cinéphiles, dont Robert Pennavert fait partie, qui dressent l'oreille.
Alors, on va entendre de la musique d'Ennio Morricone, de John Williams, des commandes faites par Clint Eastwood. Mais on va aussi entendre de la musique qui a été composée par son fils Kyle, qui sera donc là, et notamment la bande originale de Million Dollar Baby. Ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est que vont être projetées en même temps des images spécialement faites pour ce spectacle qui s'appelle Eastwood by Eastwood. Et on va entendre aussi toute l'étendue, toute la palette musicale en fait, de Kyle Eastwood, qui est un contrebassiste de jazz ultra doué. C'est vraiment un très grand musicien. Et donc, je pense que ceux qui aiment Clint Eastwood peuvent aller voir son fils Kyle. Et puis, ceux qui aiment le jazz et la musique, le grand jazz, peuvent venir au concert. Ça va être une belle rencontre, une belle croisée des styles.
Ouais, Kyle Eastwood, qui avait fait ses débuts au cinéma à l'âge de 8 ans dans José Wells Hors la Loi. Je crois que c'était le deuxième film réalisé par son père. Mais il n'a pas choisi de faire du cinéma. Il a choisi d'être musicien de jazz. Il faut dire que Clint Eastwood est lui-même un grand fan de jazz. On se rappelle son film Bird, consacré à Charlie Parker. Donc c'est lui qui a transmis la passion du jazz à Kyle Eastwood. Donc il y aura les bandes originales d'Impitoyable, Sur la route de Madison, Grand Torino, Lettre d'Iwo Jima, L'inspecteur Harry, Magnum Force. Et puis il y aura aussi du Ennio Morricone. Donc il n'y a pas seulement des films réalisés par son père, il y a des films dans lesquels a joué son père. Le Bon, la Brute et le Truand, ou Pour une poignée de dollars. Voilà, nous allons écouter Kyle Eastwood et son quintet dans une interprétation du thème principal de Grand Torino, composé par Michael Stevens et Kyle Eastwood lui-même. Thank you. le thème principal du film Gran Torino par le Kyle Eastwood Quintet, un aperçu du programme du concert Eastwood by Eastwood, lundi 1er juillet à 21h au Théâtre de la Cité, et puis mardi 2 juillet, on reste au Théâtre de la Cité, où se produit une vieille connaissance des Toulousains, le pianiste, compositeur et improvisateur Jean-François Zigel. Inutile de le présenter, en revanche, vous allez pouvoir, Julien, nous en dire plus sur son concert. Jean-François Zigel rencontre Walt Disney.
Ben Jean-François, c'est un habitué du festival, donc...
Et des salles toulousaines depuis une bonne dizaine d'années.
Exactement, et c'est un peu l'un des parrains du festival. On a deux parrains finalement, on a Yvan Cassard et Jean-François Zigel. Et donc Jean-François, je lui avais dit l'an passé après son concert dans le cadre du festival, écoute, j'aimerais que l'an prochain, si tu reviens, on puisse faire un projet un peu spécial. J'ai depuis longtemps en tête de faire quelque chose sur Disney, sur Walt Disney, voilà. Et donc je lui ai donné un peu cette carte blanche, mais un tout petit peu orientée. Et après quelques mois de réflexion, Jean-François m'a dit, allez banco, je fais quelque chose sur Walt Disney. Et donc, c'est ce concert-là qu'on va pouvoir entendre le mardi 2 juillet. Je pense que ça va être assez passionnant parce que Jean-François, en fait, s'est beaucoup plongé dans la vie aussi de Walt Disney. Il a découvert aussi l'univers Disney, qui était un univers un peu étranger pour lui. Et vous imaginez bien que quand quelqu'un, avec sa culture, sa capacité de travail et son inventivité, se concentre sur un sujet, ça donne quelque chose d'extraordinaire.
En plus, sur un terrain qui apparemment est assez vierge pour lui. Donc là, ça va lui inspirer, je pense.
Exactement. C'est encore une création cette année du festival. C'est la troisième en quatre concerts.
En partenariat avec la Cinémathèque.
En partenariat avec la Cinémathèque, qui est un partenaire depuis les débuts, et c'est vraiment une collaboration très précieuse pour le Festival de Toulouse.
Voilà, mardi 2 juillet à 21h au Théâtre de la Cité, et toujours au Théâtre de la Cité, là il y aura deux concerts, les jeudis 4 et vendredi 5 juillet à 21h, Ibrahim Malouf, le célèbre trompettiste, avec l'Orchestre National du Capitole. Or c'est certainement la grande affiche de cette troisième édition, d'autant plus que vous avez donné, là aussi, carte blanche au musicien qui a décidé de proposer une création autour de la figure de Saint-Exupéry.
Oui, alors c'est une œuvre collective, ce spectacle, c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec la Fondation Saint-Exupéry, également avec AIDA, l'association des mécènes et partenaires de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et de l'Opéra. Et on a réussi, en se mettant aux côtés d'Ibrahim Malouf, à créer, on a passé commande en fait d'une œuvre hommage. Ibrahim Malouf a été très sensible au fait de célébrer les 80 ans de la disparition de la grande figure que représente Antoine de Saint-Exupéry. Et on a décidé finalement, à la fin, de faire une sorte de carte blanche, un spectacle que vous n'entendrez nulle part ailleurs d'Ibrahim Malouf. Donc je n'en dis pas plus sur ce qu'il y aura dans le contenu du concert, mais il y aura cette création. Et cette création donc, va se faire avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, bien sûr, mais aussi le Chœur à bout de souffle, qui est un magnifique chœur toulousain, dirigé par Stéphane Delincac.
Oui, oui.
Et voilà, c'est aussi la réunion, voilà, on peut le dire, d'une grande figure de la musique française et internationale, Ibrahim Malouf, mais aussi avec nos ambassadeurs toulousains, que sont l'orchestre et le chœur.
Sans oublier les liens à Saint-Exupéry avec Toulouse, évidemment, à travers l'aventure de l'aéropostale dont il a été un des pionniers. Il a souvent séjourné à Toulouse. Les deux concerts sont déjà complets, hein, faut quand même le préciser.
Malheureusement, voilà, victime d'un succès mérité, mais vous avez quand même un programme qui permet, je pense, de trouver autre chose
bien
par
sûr.
Ailleurs.
Pas d'extrait à vous proposer pour ce concert puisqu'il s'agit d'une création. Le rendez-vous suivant est programmé le dimanche 7 juillet à 18h à l'Opéra National du Capitole. Ce sera le seul concert de ce festival au Capitole. Et c'est pas le bel canto qui est à l'honneur, contrairement à l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était Roberto Alagna qui avait chanté sur la scène lyrique toulousaine. Eh bien, en 2024, place à la chanson avec Christophe Willem, accompagné par Yvan Cassard au piano. C'est peut-être inattendu à cet endroit, mais Christophe Willem, c'est vraiment une voix à part sur la scène française, Julien.
Christophe Willem, c'est une grande voix, en fait. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de proposer au Capitole quelque chose à la hauteur de ce lieu qui a accueilli les plus grands chanteurs lyriques, mais aussi d'être un peu décalé parfois, comme c'est le cas du festival qui fait la passerelle, j'allais dire, entre les différentes musiques et entre les arts majeurs et les arts, entre guillemets, mineurs. Je revoyais l'autre jour, d'ailleurs, une émission où Gainsbourg faisait la leçon
à Guy Béard, entre arts majeurs, la différence entre arts majeurs et arts mineurs.
Et pour résumait en gros, il lui disait, mais l'art mineur, c'est celui où il n'y a pas besoin d'initiation. Enfin, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est amener les gens vers les arts majeurs, justement, les arts un peu plus compliqués à atteindre, mais aussi, voilà, célébrer la beauté toute simple d'une belle chanson. Et Christophe Willem, c'est une voix exceptionnelle. Si on se souvient bien, il s'est fait connaître avec La Nouvelle Star, et c'était un interprète absolument hors norme. On l'appelait la tortue à l'époque. Tortue. Mais c'est quelqu'un qui était capable, en très peu de temps, de revisiter, comme on dit aujourd'hui, une chanson, mais de la sublimer. Voilà. Et donc, Christophe Willem vient avec un spectacle sur mesure pour nous, acoustique, avec Yvan Cassar, qu'on ne présente plus non plus. C'est-à-dire que c'est l'artisan, en fait, des très grandes, Johnny Hallyday, Mylène Farmer. Et ils vont reprendre ensemble donc, des chansons de Mylène Farmer, de Michel Berger, de Claude Nougaro. Il faut savoir que Yvan a composé pour Claude Nougaro. Il a bien sûr aidé à faire plusieurs albums, enfin bon voilà, donc c'est quelque chose en fait qui fait sens ici à Toulouse et vous allez pouvoir entendre un spectacle sur mesure au Capitole, la maison des grandes voix, mais un peu décalé vers la pop.
Oui, puis c'est une occasion unique hein, de voir Christophe Willem là, dans l'acoustique du Capitole. Alors c'est un peu un pèlerinage pour le chanteur parce que vous avez parlé de La Nouvelle Star dont il avait été lauréat il y a maintenant, oh il y a pas loin de 20 ans je crois. Tout avait commencé à Toulouse parce que le casting où il avait été drafté, comme on dirait au basket, bah c'est sa sœur qui l'avait inscrit un peu malgré lui, semble-t-il, et ça s'était passé à Toulouse. Alors dans son tour de chant au Capitole, il devrait y avoir entre autres cette chanson célèbre de Michel Berger, vous avez parlé de Michel Berger. Écoutez ce qu'en fait Christophe Willem, accompagné par Yvan Cassar. Quelques mots d'amour, vous avez reconnu la chanson de Michel Berger reprise par Christophe Willem qui accompagne donc ici Yvan Cassar au piano. Ils sont tous les deux sur la scène de l'Opéra National du Capitole dimanche 7 juillet à 18h et le lendemain, le lundi 8 à 21h, direction Saint-Pierre-des-Cuisines pour un hommage à Astor Piazzolla proposé par la bandonéoniste Louise Jalut avec son quartet. C'est une première à Toulouse pour cette jeune musicienne qui est un véritable petit phénomène parce que les bandonéonistes français, ça ne court pas les rues et pourtant on a affaire à une véritable virtuose de cet instrument. En plus, elle était entièrement formée en France.
Oui, alors Louise Jalut, c'est un peu l'ovni du bandoneon. Donc le bandoneon, c'est l'instrument d'Astor Piazzolla. Pour le décrire, on pourrait dire que c'est un accordéon, mais qui a un son plus cru, plus empreint de souffrance. L'accordéon est plus lisse, et il va être adapté aussi pour jouer de la musique classique. C'est un caméléon. Le bandoneon, c'est un instrument qui vient, j'allais dire, comme le tango, pleurer la vie, faire quelque chose comme ça. Et Louise Jalut, non seulement c'est une grande virtuose de son instrument, mais surtout c'est une musicienne assez incroyable. Et quand on écoute du Piazzolla, souvent on se dit oui, Piazzolla, mais c'est mieux l'original. Et Louise Jalut a sorti un album en hommage à Piazzolla où elle a quelque part recomposé presque certaines pièces qu'on a l'habitude d'entendre pour en faire quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. Évidemment, c'est pas un ersatz de Piazzolla en plus ou moins bien. Non, c'est autre chose, mais autre chose d'extraordinaire. Et c'est ce programme-là qu'elle vient nous présenter en partenariat avec Tango Postal, lui, parce que cette année, on a beaucoup de nouveaux partenariats. Et moi, j'aime beaucoup cette idée que les institutions, entre guillemets, toulousaines, travaillent ensemble de concert.
Et puis, on est dans la ville de naissance, a priori, de Carlos Gardel. Donc, Piazzolla, évidemment, et une bande néoniste, ça tombe un peu sous le sens. Alors, je disais, elle est entièrement formée en France. Les hasards de la naissance, c'est très étonnant. Elle est née à Gennevilliers. Et elle a fait donc ses classes au conservatoire de Gennevilliers, qui a été le premier en Europe à avoir une classe de bandoneon. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée à cet instrument auquel elle n'était pas forcément destinée pour des histoires familiales ou autres, pour une tradition familiale, pas du tout. Et voilà où ça l'a menée. Dans l'album Piazzolla 2021 de Louis Joyeux, il y a bien sûr l'inévitable Oblivion. Voici la version qu'en donne la jeune bandoneoniste avec son quartet. Le célèbre Oblivion d'Astor Piazzolla dans une version du Louise Jaloux Quartet qui se produit donc lundi 8 juillet à 21h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et le mardi 9, on reste à Saint-Pierre-des-Cuisines et c'est encore à 21h pour une autre création de ce troisième festival, un spectacle intitulé « Dans la tête d'Horowitz », écrit et mis en scène par la comédienne et chanteuse Magali Thomas, dont le récitant sera un certain Nelson Montfort. Voilà qui est pour le moins intriguant. Est-ce qu'on peut en savoir plus, Julien ?
Nelson Montfort, c'est un très grand mélomane. On se souvient, enfin moi je me souviens en particulier de concerts qu'il avait fait avec l'orchestre de chambre de Toulouse il y a quelques années. Et donc il a monté un spectacle avec des super musiciens en fait qui rend hommage à Horowitz. Vladimir Horowitz, c'est sans doute l'un des plus grands pianistes qui a jamais existé et sans doute la plus grande figure du XXe siècle pour le piano. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a Richter, il y a Gilels, bien sûr.
Mais concurrents un peu tous ceux que vous citez, c'est la même génération.
Oui, mais Horowitz, c'est une vie complètement à part. Donc pour ceux qui savent, il était le gendre du plus grand chef d'orchestre de
l'époque.
Marié
avec la fille d'Arturo Toscanini.
Voilà, et puis il est né en Russie, il était russe, mais dans la partie ukrainienne, il vient d'Odessa. Il a immigré avec un autre très très grand musicien, enfin avec deux autres, mais Nathan Milstein, le violoniste, et Piatigorsky, le violoncelliste. Ils sont partis vers l'Occident en même temps. Ils ont une vie romanesque, mais absolument stupéfiante. Et Horowitz, encore plus que les autres, parce qu'il a connu des drames personnels. Et puis, il a été vraiment sur le devant de la scène. C'était le pianiste préféré de Rachmaninov. Voilà, il y a une vie, de légende, et c'est cette vie-là qui va être racontée en musique et à travers notamment les plus grands succès d'Horowitz au piano. Donc c'est vraiment un spectacle, je pense, qui est complètement plus adapté aux familles et pour découvrir le XXe siècle, l'Amérique finalement, le New York des années 60 à 80.
Oui, parce que ce spectacle est imaginé au moment du retour triomphal d'Horowitz sur la scène de Carnegie Hall. 12 ans après sa dernière apparition en concert, il avait fait une longue dépression donc entre-temps. Et donc ça nous fait pénétrer à travers l'incarnation de son double, Volodia. Alors Volodia, c'était le surnom qu'a donné sa femme à Vladimir Horowitz. On va citer tout de même les musiciens. Donc Magali Thomas sera au chant, Caroline Debonne sera à la flûte et le pianiste sera Sergio Monterisi. Toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, mercredi 10 juillet à 21h, une première au Festival de Toulouse pour la musique des Balkans avec Sergian Grujicic et l'orchestre. Le guitariste et chanteur franco-serbe présente avec ses trois musiciens un programme qui est né d'un voyage. Un voyage qu'ils ont fait en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, en Serbie, en Bulgarie, en Macédoine, en Grèce et en Turquie. Ben voilà qui devrait être très dépaysant, Julien.
Oui, ça va être un très très beau voyage, et d'autant plus qu'ils ont cette caractéristique, donc Sergian et ses musiciens, d'être de très grands musiciens classiques, qui sont tous passés par le CNSM de Paris, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, mais surtout ils ont toujours conservé en fait la pratique de la musique traditionnelle de leur pays d'origine. Et ce qui fait en fait qu'on a un mélange assez unique, à la fois d'authenticité et en même temps de virtuosité assez exceptionnelle. Il faut savoir qu'ils accompagnent très souvent Nemanja Radulović, le violoniste, qui lui aussi a ce mélange un petit peu entre, j'allais dire, musique classique hyper léchée et en même temps cette fougue, voilà, avec des racines des Balkans. Et donc ce concert-là, c'est, je pense, un des concerts révélation de cette troisième édition du festival.
Un voyage à travers la musique des Balkans. Alors maintenant, on va passer à vraiment les purs régionaux de l'étape, là, cette fois-ci. Vous avez, comme l'an dernier d'ailleurs, prévu un concert baptisé Prodige, qui se passera le 11 juillet, donc ce sera donné le 11 juillet, jeudi 11 juillet, à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et là, on va retrouver les jeunes talents toulousains, qu'ils soient chanteurs ou instrumentistes. Julien, je vais vous laisser le soin de nous donner les noms de ces jeunes talents.
Oui, alors ce concert-là, il a été construit autour de quatre musiciens issus du Conservatoire de Toulouse et qui ont des âges un tout petit peu différents, mais ils sont tous très jeunes et qui sont en fait des Mbappé, on va dire, de la musique classique, tout simplement. Constant Després, un jeune pianiste, mais qui est déjà bien connu dans nos contrées, est rentré à 15 ans au CNSM de Paris, ce qui est quand même très jeune en classe de piano. Et il a été révélé en fait par l'émission Prodige il y a quelques années, la première émission Prodige, qui était d'ailleurs avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, à Albi. Et Constant, en fait, n'a fait que confirmer, année après année, tout le talent qui était le sien. Et on lui a associé, en fait, son compère, Baptiste Donadio, qui est altiste, qui a le même âge que lui. En fait, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et Baptiste est rentré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris la même année. Et ensuite, il y a Claire Buissou, qui est une chanteuse avec qui ils ont beaucoup joué quand ils étaient au Conservatoire, et François Pardaillé, que Robert connaît, je pense, très bien aussi, puisqu'il a foulé les scènes d'opéra un petit peu partout, mais notamment celle du Capitole. Et donc, on va avoir un concert avec de la musique de chambre, des duos, des trios, du quatuor. Et quelque part, c'est aussi la célébration de l'excellence à la toulousaine avec le Conservatoire de Toulouse.
Voilà, il y aura un programme de pièces et d'air de Scriabine, Brahms, Kurt Weill, Albéniz et Mozart. Retour au Théâtre de la Cité pour l'avant-dernière soirée du festival vendredi 12 juillet à 21h, où là aussi